Vous écoutez
RMC.
Est-ce que l'OM est toujours attractif? Tiens, je commence avec toi, Jen, qui a aussi un regard sur le mercato marseillais. Est-ce qu'il est excitant? Est-ce qu'on peut repartir sur de très bonnes bases en faisant une révolution totale du banc de touche au terrain, de l'entraîneur au joueur?
Bah en fait, tout est lié. C'est-à-dire que aujourd'hui, c'est difficile de trouver un coach parce que justement, il n'y a pas de lisibilité sur le projet, sur les moyens. Un coach, quand il vient, il veut quand même avoir des certitudes. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que Marseille donne aucune certitude et depuis malheureusement un bon moment avec la non-qualification en Coupe d'Europe, le budget va être serré. Il y a eu d'énormes erreurs de recrutement et aujourd'hui c'est difficile pour un coach de se projeter avec la liste que tu viens de nous donner de joueurs qui sont partants. C'est bien beau de le dire maintenant, mais en réalité c'est le coach qui va arriver qui va décider qui est-ce qu'il a envie de garder, qui est-ce qu'il a pas envie de garder, peut-être même après une pré-saison.
Il y aura des impératifs pour le salarial quand même, hein, compte donc bien qu'un énorme salaire à Marseille.
Je veux bien, mais quand tu commences à essayer de vendre en disant que t'as des impératifs de masse salariale, tu risques pas de vendre très bien en fait. À partir du moment où les gens savent que c'est la crise chez toi, tu vas très mal vendre. Et le problème, c'est que Marseille, ben écoute, on nous dit on part avec Gattuso sur un projet de 3-4 saisons. Finalement, il est viré 24 heures après. Donc, qu'est-ce qu'on peut croire de ce genre de ce genre d'infos?
C'était de la communication, je pense à l'époque.
Ouais, mauvaise.
Oui, peut-être mauvaise, mais en tout cas, elle était.
Donc là, c'est difficile pour un coach de se projeter. Maintenant, faut pas non plus tout dézinguer d'un coup. Marseille, ça reste Marseille.
Ah voilà, ça reste attractif pour toi, Marseille.
Bah évidemment. Ouais. Je veux dire, en termes de statut de club, tu parles à n'importe qui à l'étranger, il connaît l'OM. Les joueurs, c'est pareil. Ce qui est pas le cas pour. Enfin, ça reste pour moi un club phare du.
Parce que c'est aussi une exposition, parce que c'est diffusé en prime time quasiment. Chaque semaine, pour le joueur, c'est important.
On a entendu
les vibrations du stade.
Gasperini, après le match contre l'Atalanta, quand il te parle du Vélodrome, il te dit.
Mais bien sûr, et pour moi, un coach, c'est évident que s'il a un minimum d'assurance sur les moyens qu'on va mettre à sa disposition, bien sûr que Marseille, ça reste attractif. Aujourd'hui, c'est un projet super excitant. Maintenant, en termes de joueurs, c'est un peu différent. C'est-à-dire que c'est super excitant pour des joueurs pour qui il ne va pas y avoir une concurrence énorme. Parce que les choses sont ce qu'elles sont. Et s'il y a des clubs qui ont plus de moyens, les joueurs ciblés par l'OM ne viendront pas. Mais aujourd'hui, il faut quand même arrêter de penser que Marseille, parce qu'ils ont fait une mauvaise saison, toute l'image qui a été construite depuis tant d'années s'effondre en 5 minutes.
Walid.
Non, bien évidemment, quand on parle d'attractivité, ça dépend où on la place. Et on le voit avec Fonseca. Si aujourd'hui, on parle de l'AC Milan qui va jouer la Ligue des Champions et qui a un prestige supérieur à l'Olympique de Marseille, il ira à l'AC Milan. Maintenant, Ça n'empêche pas que si tu n'as pas Fonseca, tu peux pas avoir des coachs qui seront intéressés par ton projet et par l'Olympique de Marseille. La même chose pour les joueurs. On parle quand même d'un club qui a su attirer sur les dernières années des joueurs quand même étonnants. Alexis Sanchez, Aubameyang. Donc aujourd'hui, peut-être que tu ne les auras pas parce que financièrement, tu vas devoir payer tes erreurs. Mais il y aura quand même une range de joueurs que tu pourras attirer, que ce soit sur des contrats ou même sur des prêts.
Sur des prêts
à la relance, on ne sait pas ce qui peut se passer, mais on l'avait vu avec Saliba, Arsenal, notamment.
Des prêts, ça veut dire encore bricoler.
Oui,
en fait.
Mais malheureusement, il va falloir, quoi qu'il arrive, Nico, tu peux pas aujourd'hui avoir fait des erreurs et ne pas les payer l'année d'après. Surtout que cette année, tu payes le barrage de Panathinaikos. Et plus le rattrapage où t'as pas réussi sur le championnat à aller en Ligue des Champions, alors que cette année il y avait 3+1.
Je suis d'accord avec toi, mais le problème des prêts, qu'est-ce qui se passe quand t'as des joueurs en prêt? C'est que c'est des joueurs qui sont pas concernés, ils en ont rien à faire.
Pas forcément.
Saliba,
par exemple, vous voulez se relancer.
Mais tu peux pas avoir trop de joueurs en prêt dans un club, sinon t'as personne qui est impliqué. Ils savent qu'à la fin de saison ils s'en vont. Le but, c'est aussi de faire rentrer un peu d'argent dans les caisses, on le sait. Et avec des prêts, malheureusement, tu développes les joueurs de quelqu'un d'autre et tu revends rien du tout. Donc,
Moi, je te parle de mix. C'est-à-dire, je te dis pas qu'il va avoir 7 ou 8 prêts. Mais demain, tu peux faire un coup sur un ou deux joueurs.
Retouches, 2-3 prêts.
Parce qu'on disait sur la manne financière, ça va être très, très compliqué. Déjà, moi, je pense que quand on parle de Kondogbia ou d'autres joueurs, il va avoir le championnat magique qui va apparaître comme pour Renan Lodi en janvier. Je pense que la sortie en Arabie Saoudite pour un ou deux joueurs, surtout avec les contacts qu'a Mehdi Benatia là-bas. Ouais. Je pense que ça peut être très très intéressant pour libérer un peu de la masse salariale. Ensuite, après, il va falloir voir comment ils vont constituer leur équipe et surtout quel coach va arriver. Ça va être surtout ça, la direction. Donc, pour l'instant, on est un peu dans l'attente avec Marseille. On peut pas avoir d'avis tranché là-dessus. Mais moi, je pense quand même que à un match par semaine l'an prochain, tu peux avoir un effectif compétitif avec un entraîneur qui a des idées. Aujourd'hui, tu t'appelles pas Marseille, t'es pas Laurent Cuiseau. Donc globalement, je pense qu'il y a des choses à faire et ça va être à eux, Longoria et Benatia notamment, de rebondir parce que on va les attendre là-dessus.
Ricardo, une question quand même parce que t'as joué dans les années 2000-2010 et ouais. Notamment en France. Est-ce que même dans les périodes de crise de l'OM, il y en a eu plusieurs sur les deux dernières décennies, l'OM restait attractif. Quand vous parlez dans le vestiaire de Marseille,
toujours,
tous les joueurs.
Toujours, c'est toujours un plaisir de se déplacer au Vélodrome, toujours le plaisir de les accueillir.
Mais d'y jouer, toujours une attente, maillot, d'y jouer avec la pression que ça.
Forcément, il y a une pression particulière. Après, selon les époques, hein, de toute façon, j'ai pas refaire l'histoire, mais on sait que c'est plus délicat de jouer à l'OM. Il y a eu un moment où c'était magnifique, avec Deschamps, année 2010, titre de champion, Champions League, tout ça. Mais après, de ce qu'on parle, c'est vraiment du terme de reconstruction.
Ouais.
Et pour moi, je vois ça d'un bon œil. Alors certes, on va recommencer un peu encore à zéro, il y aura du travail à faire, du bricolage, c'est le terme, mais je pense que ça peut être aussi quelque chose d'intéressant pour l'OM d'en partir encore une fois sur des basses scènes, mais véritablement de prendre vraiment de retenir les leçons du passé. Et je pense que ce qui sera primordial cette saison, c'est aussi le discours du coach. Le discours d'un coach, parce que au-delà de l'aspect financier, de l'aspect, on va dire, contractuel, que ce soit un prêt ou des joueurs qui partent ou qui arrivent, c'est vraiment ce qu'on va proposer sportivement à l'OM. Et je pense que sportivement, ça reste attractif.
Et ça reste
l'incarnation du coach aussi. Le choix du coach est super important.
L'histoire financière, sur les dernières années, quand même, on a vu Lens faire podium avec de la cohérence. Mmh. On a vu Lille qui était au fond du trou après Gourvennec, notamment financièrement, qui avec un coach. Et c'est pour ça que le coach va être très important.
Est-ce que tu peux recruter comme Brest l'a fait, Brest non, avec ses moyens, ses problèmes de Ligue 1 ou Lens aussi?
Je parle pas de Brest, je suis pas là pour
comparer. Tu peux recruter comme Lens quand t'es Marseille. C'est ça la difficulté, c'est un débat qu'on fait souvent.
Je dis juste que sur la période Covid notamment, l'effectif de l'Olympique de Marseille sous Villas-Boas, regardez les compositions d'équipe, je peux te dire qu'il n'y a pas des cracks à toutes les lignes. C'est très compliqué. À un moment donné, tu dois mettre Germain sur le côté, tu dois mettre Maxime Lopez sur le côté, t'as Benedetto, t'as des petites idées, et tout n'est pas une franche réussite. Donc, je pense globalement que l'Olympique de Marseille, l'année prochaine, va pouvoir être ambitieux et compétitif en Ligue 1. Je répète, qu'avec la Ligue 1, avec des bonnes idées, avec du travail. Et peut-être que ce que tu l'expliquais tout à l'heure dans les infos de Flo Germain, là, oui, il va falloir faire, je vais pas dire table rase, mais il y a 3-4 dossiers. De toute façon, on a bien compris avec les infos de Flan Germain que tous les cas vont être étudiés, hein. De Aubameyang qui a fait une grosse saison.
Tout le monde est vendable.
Parce que Aubameyang à 700 000 par mois aujourd'hui sans la Ligue des Champions ou sans l'Europe, ça va être très très compliqué à assumer. Mbemba qui arrive à un an de la fin de son contrat avec un âge avancé, comment tu fais, comment tu le gères? Unai, il y a peut-être un marché en Espagne à explorer pour essayer de récupérer les 10 millions d'euros que tu as mis, même s'il faudra faire attention. Je crois qu'il y a 25% à la revente à Angers. Voilà, tout ça, il va falloir, s'il y a des portes de sortie, s'il y a des possibilités, qu'on dogue bien, il va falloir tout étudier et derrière, avec le coach, faire quelque chose de positif.
Et c'est vraiment là qu'on va attendre le travail d'un Mehdi Benatia, justement, comme il va travailler.
Voilà, c'est son premier gros
mercato. C'est là qu'il va être au révélateur. Et surtout, encore une fois, je me répète, mais ça fait le choix du coach, il va être important pour.
Ça ne peut pas faire travailler avant l'hiver. Ne pas recruter comme ils l'ont fait l'année dernière avant d'avoir nommé un coach, d'abord le coach.
Et ils n'auront pas les mêmes moyens que l'année dernière, surtout. Hein. Ils l'ont pas eu en janvier, il faudra aussi le prendre en compte dans l'analyse.
Le discours pour attirer le joueur qui va faire certaines concessions pour arriver dans un projet sur 2-3 ans et puis bon.
Mais ils vont avoir de la concurrence sur tous les dossiers demain.
Bien sûr.
Un numéro 9, tu veux Miko Tadze en remplacement de Aubameyang, si Aubameyang part par exemple, Miko Tadze, il va avoir Rennes, il va avoir Monaco, il va avoir pas mal. Et ces joueurs-là vont devoir faire le choix de où est-ce que tu vas.
Et je me répète, le choix, il va se poser où? Pas forcément son côté financier ou côté attractivité, c'est le côté aussi du discours du coach.
Ouais.
Encore une fois, c'est pour cela, il faudra prendre les choses dans l'ordre.